France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que le Sénat vient de rejeter très largement la taxe dite Zucman, qui vise à taxer les revenus au-dessus de 100 millions d'euros par an, tentons ce soir de comprendre qui sont ces ultra-riches qui verraient ou auraient dû voir leur taux d'imposition élevé à 2% de leur fortune. Comment faire une sociologie de ces élites économiques? Quelles sont les spécificités même de l'élite économique française? Pour en parler, un invité ce soir, Paul Lagnaud-Imonet. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je vous laisse terminer votre verre d'eau. Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Votre livre, vous l'avez coécrit. Il est intitulé « Vers le haut, enquêter sur l'élite au pouvoir », coécrit avec François Denor et Sylvain Lorenz. Il paraîtra dans quelques jours aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du soir.
Paye effectivement deux fois moins d'impôts à peu près que les catégories sociales moins favorisées, les classes moyennes et classes populaires. Pourquoi? En un mot, parce qu'elles payent, ces ultra-riches, ils payent très peu d'impôts sur le revenu. Normalement, l'impôt sur le revenu, c'est la pierre angulaire de la progressivité fiscale. Mais quand vous êtes extrêmement riche, quand vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, c'est assez facile de structurer sa fortune de façon à ce que cette fortune génère peu ou pas de revenus taxables. C'est comme ça qu'on a un certain nombre de milliardaires qui touchent des milliards de dividendes, mais ces dividendes, ils atterrissent dans des sociétés holding où ils ne sont tout simplement pas fiscalisés. Ensuite, ils sont épargnés, réinvestis, ils peuvent faire de la philanthropie, ils peuvent acheter des médias, etc. Mais tout ça sans avoir à payer d'impôts.
L'économiste Gabriel Zucman, qui était l'invité de France Inter du débat du 7-10, Paul Lagnaud-Imonet, je l'ai dit, vous êtes sociologue, vous n'êtes pas économiste. Qu'est-ce que le sociologue peut nous dire sur ces ultra-riches, sur ces Français, qui gagnent plus de 100 millions d'euros par an et qui auraient dû être visé par cette taxe dite Zucman?
D'abord, ce qu'on peut constater, c'est qu'une majorité de sénatrices et de sénateurs ont exprimé leur préférence pour une fiscalité injuste plutôt que le respect du principe d'égalité devant l'impôt et un surcroît de recettes d'au moins 15 milliards d'euros par an. C'est la première chose. Et puis, peut-être que pour avoir quelques ordres de grandeur, on peut se dire que si on compare le montant moyen des 100 premières fortunes professionnelles en France aujourd'hui à celui des 100 premières fortunes en 1996, la première année du classement publié par le magazine Challenge, on constate que ce montant moyen en euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, il a été multiplié par 10. Pour avoir quand même des ordres de grandeur, il faut se dire que sur la même période, le salaire net moyen des gens qui bossaient dans le privé, il a augmenté de 13%. Donc d'un côté, x 10, de l'autre, 13%. Donc ça, c'est quand même une situation, un état de fait qui, visiblement, n'a pas semblé poser de problème ni au gouvernement, ni à une majorité de sénateurs ce jeudi.
Ça, c'est pour la majorité du Sénat, mais vous, justement, en tant que sociologue, si vous nous éclairez sur qui se cache derrière ces personnes qui gagnent des montants tels que ceux-ci, 100 millions d'euros par an, comment est-ce qu'on gagne 100 millions d'euros par an? C'est d'abord et avant tout des revenus du capital, c'est, j'allais dire, un lien direct avec l'outil, avec le moyen de production?
Oui, très clairement. Il faut avoir en tête que à ces niveaux de fortune, l'immense majorité de la quantité d'argent dont on parle, c'est des actifs financiers. C'est des parts dans des entreprises qui peuvent être des entreprises cotées ou des entreprises qui sont pas cotées en bourse. C'est pas beaucoup d'individus quand même. Les estimations qui circulaient lors des débats à l'Assemblée puis au Sénat évoquaient 1800 foyers fiscaux. On peut se donner une idée assez simplement, effectivement, par exemple, en consultant ce type de classement que régulièrement, tous les ans, en France, Challenge, à l'international, Forbes publie. Et il s'agit effectivement de familles qui contrôlent un outil de production et, ce faisant, contrôle de très grandes entreprises qui opèrent dans différents secteurs. On peut penser à la grande distribution, le luxe, la téléphonie. Et une partie de cet argent, ensuite, peut être réinvesti, y compris dans des activités qui consistent à contrôler des médias, par exemple.
Voilà. Un autre sujet sur lequel le sociologue peut nous éclairer en particulier, c'est sur les exilés fiscaux. Il y a un argument qu'on entend énormément, c'est celui qui dit, en gros, si l'on taxe trop, un petit peu trop ces ultra-riches, ils iront s'exiler à l'étranger, dans des lieux, dans des zones, dans des pays où, dans le fond, on les taxera moins. Est-ce que le sociologue, là aussi, a des choses à dire sur le sujet ?
Bah, très clairement, parmi les contre aux arguments à cette proposition de loi, il y avait, on nous a ressorti, on peut dire en gros, les trois figures de la rhétorique réactionnaire telles que l'économiste Albert Eichmann les avait présentées. Il y a l'inanité, l'idée selon laquelle en fait ça va rien rapporter de plus, ça sert à rien de faire quelque chose, ça va rien rapporter de plus. Il y a l'idée de la mise en péril, qui est un argument qui est revenu très souvent, c'est l'idée selon laquelle mettre en place une taxe du type taxe Zucman, ça remettrait en question toute une politique d'attractivité. Et puis il y a cette idée de l'effet pervers. L'idée que, finalement, ça va dissuader l'entrepreneuriat et des fortunes professionnelles vont quitter le pays pour des juridictions fiscalement plus accueillantes. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, la situation est la suivante. C'est-à-dire que si on s'en tient à ce qu'on peut lire dans les journaux, ce qu'on peut entendre à la radio, voire à la télé, il y a assez régulièrement des figures majeures dans différents pays qui disent quitter leur pays parce que elles ne veulent plus payer trop d'impôts. Et puis d'autre part, il y a des travaux, notamment quantitatifs, qui montrent que en termes de flux, dans les pays où on dispose des informations, ces flux d'exilés fiscaux sont pas conséquents. Et donc, il y a des collègues, je pense notamment à une équipe à Londres, qui ont pris la peine d'aller interroger des ménages multimillionnaires pour discuter, essayer de comprendre un petit peu à quelles conditions les gens seraient prêts à partir ou pas. Et alors, le résultat qui est quand même vraiment très intéressant, c'est qu'en gros, ces ménages très privilégiés, ils n'étaient pas prêts à quitter Londres. C'était un cas anglais.
C'est une comparaison entre Londres et la Suisse.
Voilà, exactement. Ils n'étaient pas souvent prêts à quitter Londres. Sa place financière internationale, sa vibrante vie culturelle, ses sublimes quartiers d'exception, ses écoles très chères, mais de renommée, de grande renommée, juste pour aller payer moins d'impôts ailleurs. Et au terme de cette enquête, ce qu'on pouvait redécouvrir, c'était quelque chose qu'on voit souvent en sociologie, c'est que des grandes capitales comme Londres, par exemple, restent pour ces ménages fortunés ce qu'on pourrait appeler la capitale de leurs capitaux, c'est-à-dire un lieu où celles et ceux qui peuvent se le permettre, et loin s'en faut, tout le monde ne peut pas se le permettre, accumulent, investissent, convertissent et parfois aussi dissipent les quatre principales formes de capital dont on dispose, qui sont l'argent, bien sûr, mais aussi la culture, les relations et le prestige.
Qui sont par ailleurs ces exilés fiscaux, même s'ils sont, j'allais dire, relativement peu nombreux, en tout cas moins nombreux que ce que l'on imagine parfois, Paul Agnew-Imonet. Qui sont-ils ? Est-ce que ce sont les grands entrepreneurs, ceux qui produisent, ceux qui innovent, ou bien ce sont plutôt des profils, j'allais dire, dits rentiers, héritiers ? Car cette distinction, elle est importante aussi à faire dans l'élite économique, puisqu'elle est faite par ailleurs dans le discours qui dit « c'est dommage, on va perdre des très très riches ».
Ce que permet une sociologie qui s'intéresse aux individus qui possèdent des patrimoines considérables, c'est notamment de moins mal distinguer entre des gens qui sont en train d'accumuler des fortunes considérables et puis des gens qui, par exemple, viennent de vendre leur entreprise et qui, de ce fait, basculent pour un temps, ou peut-être pour toujours, dans une situation, dans un état qui est plutôt davantage celui de rentier. Et à ce moment-là, on a pu, à certains moments, observer effectivement des flux d'individus qui partaient parfois à Bruxelles, mais qui pratiquaient couramment le Thalys pour revenir entre Paris et Bruxelles. Voilà.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un documentaire bien connu diffusé en 2017 sur Arte France. Il s'intitule « Les bonnes conditions ». Il mettait en lumière des adolescents issus de bonnes familles qui racontaient leur quotidien, leur rapport aussi à leur classe sociale.
Ça m'handicape d'être attiré par la musique, ça me saoule limite, quoi, parce que je me dis « Ah, pourquoi je ferais pas prépa ou quelque chose, tu vois, qui me plaît et en même temps qu'il fasse bonne impression, quoi ?» Quand il y a des réunions de famille, c'est « Alors Marie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et alors ma mère qui fait « Ah, oh, la musique et tout. » Et on m'explique « Oui, tu sais, c'est très dur. Hein, » Et celui qui parle, c'est un avocat, un médecin. Bon. Alors forcément, je suis un peu regardée comme le... Je sais pas, c'est bizarre, quoi, de haut, par ma famille. Et pas tous, mais c'est vrai que du côté de ma mère, ils sont très bourgeois. Vraiment très trop, d'ailleurs. Bon, en même temps, je suis contente d'avoir une famille bourge parce que ça m'apprend la vie. Je sais que plus tard, eh ben, je saurai bien me tenir quand j'irai chez des gens.
Évidemment, on sourit quand on entend ces adolescents. Et puis peut-être que le sociologue, c'est une question de méthodologie, doit cesser de sourire quand il tente de comprendre qui forme, qui compose véritablement l'élite économique. Est-ce qu'il faut peut-être, a priori, pour commencer un tel travail, se départir de toute démarche normative ?
Bah. Oui, ça c'est le propre de la sociologie, c'est que en général, l'objet d'étude, on le construit contre des présupposés, des lieux communs, des idées préconçues qu'on a sur ces objets. C'est la raison pour laquelle, dans Vers le haut, Sylvain Laurent, François Denord et moi, on essaie de donner un peu quelques ficelles. Et par exemple, on insiste beaucoup sur l'idée que il est possible de soumettre ces groupes sociaux particulièrement privilégiés à une sociologie tout à fait classique et ordinaire. Il n'y a pas besoin de concepts spécifiques, il n'y a pas besoin. En fait, on peut, Durkheim dirait, les traiter comme des choses et appliquer à ces groupes sociaux le même type de d'enquête que celle que on réalise pour étudier d'autres individus ou groupes qui se situent dans la hiérarchie sociale.
Mais est-ce que c'est vrai ça dans les faits ? Est-ce qu'on va voir de la même façon un grand président directeur général du CAC 40 ? Est-ce qu'on va le voir de la même façon, j'allais dire, qu'une personne de condition plus modeste ? Est-ce qu'on pose le même type de questions ? Est-ce que la personne justement issue de l'élite économique ne tentera pas de détourner vos questions, de vous aborder aussi, en tout cas, de vous considérer avec plus de distance, parfois de manque de considération. Est-ce que les stratégies, j'allais dire, pour les approcher sont les mêmes ?
Bon, d'abord et avant tout, il faut avoir en tête que quand on fait la sociologie, on peut faire des entretiens, on peut faire des observations, mais il y a aussi d'autres moyens qui, sans doute, facilitent l'enquête. L'une des caractéristiques des individus dont on parle, c'est que très souvent, c'est des gens en fait qui sont relativement visibles. Si vous travaillez sur des grands patrons, pour des raisons qui ont trait à leurs fonctions de direction d'entreprise qui sont connues et reconnues, il y a plein d'informations déjà disponibles, qui sont des informations publiques, immédiatement accessibles, et donc on peut tout à fait contourner par exemple une difficulté d'accès à des individus qui n'ont pas nécessairement des sociabilités qui seraient les mêmes que vous.
Pas besoin de leur parler, donc, vous nous dites.
Je vous dis pas que vous n'avez pas besoin de leur parler, mais je vous dis juste que on a déjà plein d'informations disponibles pour être capable de faire de ce qu'on appelle la prosopographie, c'est-à-dire accumuler des informations qui nous permettent ensuite de retracer des trajectoires sociales, de les comparer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi compter sur des archives. Très souvent, les archives, elles portent sur des gens qui sont plutôt connus que les vies minuscules. Et donc, on peut aussi utiliser ça. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que quand bien même vous souhaiteriez faire des entretiens ou des observations, on peut aussi imaginer qu'un point d'entrée, ça serait d'essayer de rencontrer et de discuter avec les gens qui travaillent au service de toutes ces professions intermédiaires qui facilitent la vie de ces gens particulièrement privilégiés. Et en général, ces individus ont comme caractéristique qu'ils ont eux-mêmes déjà un regard quasi sociologique, dans la mesure où ils sont auprès de ces individus, mais ils ne sont pas de ce monde-là, et donc ils peuvent vous aider à comprendre, moins mal comprendre, les modes de vie de ces individus.
Je vous cite, vous écrivez dans Vers le haut, enquête sur l'élite au pouvoir. Laura Nader disait aux étudiantes et aux étudiants de l'université de Californie à Berkeley en 1972, si on examine les travaux reposant sur une enquête de terrain aux États-Unis, elle constatait que nous trouvons une littérature relativement abondante sur les pauvres, les groupes ethniques, les défavorisés, mais il y a comparativement peu d'enquêtes sur les classes moyennes et vraiment très peu de travaux de première main sur les classes supérieures. Fin de citation. Pourquoi est-ce que la sociologie a mis, dans le fond, tant de temps à s'intéresser à l'élite, aux couches très, très, très privilégiées de la société ?
C'est sûr que François, Sylvain et moi, on a repris cet appel de Nader comme une sorte d'invitation qu'on partage avec nos étudiantes et étudiants, puisque cet ouvrage, il est issu de plusieurs années de cours auprès d'étudiantes et étudiants en master et en doctorat, pour leur dire, vous avez tous les moyens et on va vous aider à aller faire des enquêtes, effectivement, sur les classes privilégiées. Ne vous confinez pas à des objets qui vous sembleraient plus facilement accessibles ou dont vous vous sentiriez, vous, plus proche. C'est tout à fait possible, en fait, de mener ce type d'enquête-là. Et c'est pour ça qu'on a repris dans le titre l'évocation de cet appel de l'anthropologue Nader.
Alors, lumière sur vos résultats, résultats éminemment collectifs, résultats qui appartiennent à l'ensemble du champ de recherche. Comment s'est constituée l'élite économique française, celle que l'on connaît aujourd'hui? Est-ce que le premier, le principal vecteur, j'allais dire, de l'ascension sociale, celle qui permet d'arriver tout en haut de la société, c'est d'abord et avant tout l'entreprise? Est-ce que ça reste l'entreprise?
Ce qui est sûr, c'est que dans une société capitaliste, un bon moyen de devenir très riche, c'est d'hériter déjà de capitaux, dont de l'argent. Ça, c'est indubitable. Ensuite, il nous semble que, et c'est un des résultats qui est relativement intéressant, c'est de constater que pendant des décennies, notamment tout au long du XXe siècle, on a pu opposer parmi les individus qui occupaient des positions relativement éminentes dans la société, des individus qui avaient accédé à ces positions de pouvoir de manière directe par le biais de l'héritage ou des alliances matrimoniales, et on opposait ces gens-là, en gros la bourgeoisie d'affaires, à une bourgeoisie culturelle qui devait ils devaient leur place, et elles devaient leur place dans une moindre mesure à des diplômes, ce qui est évident et qui maintenant est bien documenté en France et dans d'autres pays où on a des collègues avec qui on collabore, c'est que aujourd'hui, les gens qui occupent des positions de pouvoir, y compris des positions de pouvoir économiques, tendent à cumuler à la fois les diplômes et la richesse. Ce qui, à mon avis, a des conséquences politiques non négligeables, notamment pour celles et ceux qui prétendent formuler des discours critiques à l'encontre de la société et du monde comme il va.
Est-ce qu'il y a lieu, je reste un instant dans le contexte français, est-ce qu'il y a lieu d'opposer une élite dite d'État, une élite publique, avec l'élite privée, une élite de l'entreprise, ou est-ce que ces deux élites s'entremêlent plus largement comme on le pense et comme on l'imagine parfois?
Sans doute que la reconfiguration de l'économie française, et notamment de ce qui, à une époque, a pu être décrit comme une forme de capitalisme d'État, a considérablement modifié les rapports qui pouvaient exister entre la haute fonction publique, d'une part, et des chefs d'entreprise, de l'autre. Et il est vrai que ces dernières années, on peut constater que les caractéristiques des individus qui occupent des positions de pouvoir dans les grandes entreprises sont de plus en plus semblables à aux caractéristiques sociales de certaines et certains de nos ministres, mm-hmm. ou de gens qui sont élus, notamment à l'Assemblée nationale. C'est indubitable.
Comment est-ce que vous abordez, Paul Lannoy-Monnet, la question de la transnationalisation de ces élites économiques? Le mythe selon lequel les très très privilégiés vivraient un peu partout dans le monde, que leur année serait constituée de sauts de puce à travers les grandes mégalopoles de la planète?
Il y a des travaux, je pense par exemple aux travaux de Kirsten Surak sur les gens qui acquièrent la citoyenneté d'un pays en achetant cette citoyenneté. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en général, ces gens-là font ça pour pouvoir disposer d'un passeport qui leur permette de facilement voyager dans des régions du monde, notamment l'Europe, où leurs personnes, leurs biens sont moins en danger que ailleurs. Après, il y a des travaux, à la fois, par exemple, je pense aux travaux de collègues allemands, Hartmann, qui avaient comparé la nationalité de patrons de très grandes entreprises dans différents pays. Et ce qu'on constatait à cette époque-là, c'était que, en fait, c'était assez rare des patrons étrangers d'entreprises d'un autre pays, c'est assez rare. Aujourd'hui, dans le cadre d'un projet auquel on participe qui s'appelle World Elite Database, on peut confirmer ce résultat qui avait été établi au début des années 2000 par Hartmann. À quelques exceptions près, par exemple en Angleterre, où on voit un peu plus de grands patrons, de très grandes entreprises qui ne sont pas nécessairement anglais, ça reste quand même des gens du cru qui dirigent les grandes entreprises du cru. Cela dit, on peut imaginer que, et c'est certain qu'il existe des formes de sociabilité qui consistent, quand on est plus jeune, quand on est à l'école et que ses parents ont les moyens de cela, d'aller faire une partie de ses études à l'étranger, de commencer sa carrière dans des grandes entreprises à l'étranger. C'est des choses qui sont de plus en plus intégrées dans le cursus, dans les cursus universitaires ou les grandes écoles de commerce.
Que la mobilité soit plus forte, c'est une certitude. En revanche, que ce mythe, justement, de la classe privilégiée, déracinée, soit véhiculé, ça, c'est quelque chose qu'il faut relativiser?
Je pense que à la fin de l'histoire, que ça soit les personnes physiques, mais aussi les personnes morales, elles sont inscrites dans des juridictions, et que c'est d'ailleurs tout l'enjeu des luttes telles que celles que mène l'équipe de Gabriel Zucman en matière d'évasion fiscale, de rappeler que en fait, non, ces gens-là, ils vivent pas en apesanteur sociale, et on peut se donner les moyens d'aller repérer là où leurs capitaux sont mis à l'abri de juridictions moins favorables à ces individus dont la vie est très privilégiée.
Est-ce que mettre la lumière scientifique sur l'élite économique en particulier, est-ce que c'est une façon aussi de lutter contre le complotisme, contre ces idées qui laissent entendre, laissent imaginer parfois que le monde est dirigé justement par les très puissants qui s'entendent pour défendre leurs intérêts uniquement d'une façon consciente et rationnelle en esclavagisant des masses? Bref, le récit est infini. Qu'est-ce que la sociologie justement des élites nous permet d'apprendre et de dire de ce point de vue-là?
C'est une très bonne question. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de transformer ces notes de cours en un livre, François, Sylvain et moi. Il nous semble que la sociologie telle qu'on la pratique, c'est-à-dire une sociologie très classique, un peu à l'ancienne, elle permet effectivement d'aller à l'encontre de ces discours complotistes qu'en fait qui sont mécanistes, qui imaginent une sorte de machine infernale. Donc nous, ce qu'on répond à ça, c'est on répond en deux temps, et donc je vais vous infliger cette réponse en deux temps, mais qui sera brève.
Je vous en prie, prenez le temps.
En gros, d'abord, ce qu'il faut admettre, c'est que les intrigues et les ententes, ça existe. D'accord? Je prendrai un exemple. Je sais pas, vous consultez le site de l'autorité de la concurrence pour y piocher, on peut y trouver des exemples, et vous trouvez que, je sais pas, il y a une récente décision à l'encontre de fabricants et de distributeurs d'électroménagers. La sanction s'élève à plus de 600 millions d'euros, et elle concerne des marques qu'on connaît bien, genre Seb, Boulanger, Fnac Darty, que contrôlent de riches familles, les Lescure, les Mulier, Daniel Kretinsky.
Ils se sont entendus sur les prix, par exemple.
C'est une entente sur les prix. Ça existe, et on peut tout à fait l'objectiver. C'est pas notamment en étant attentif aux décisions de justice. Mais la sociologie, elle permet aussi d'envisager des formes d'entente qui s'expliquent davantage par des formes communes de socialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en famille, à l'école, dans des organisations, notamment des grandes entreprises, on peut acquérir des manières de voir le monde, des façons communes de se comporter, des agents qui partagent les mêmes catégories de perception, qui ont des expériences communes, ils ont plutôt tendance à se comporter de la même manière face à un même problème. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'envisager un épouvantable complot pour constater que des individus qui ont été formés de manière relativement semblable tendent à se comporter de la même manière.
Mais là, je le dis en souriant, mais on va encore dire que la sociologie est en train d'excuser les acteurs, que des personnes qui, de toute façon, même l'élite, lorsqu'elle défend ses intérêts, on va le justifier en disant que, de toute façon, c'est par plutôt accointance interpersonnelle, bien plus que par, j'allais dire, ce que véhicule le discours complotiste.
Pardon, excusez-moi. Non, mais il ne s'agit pas de justifier quoi que ce soit. Il s'agit juste de constater que il y a des situations où, face à un problème commun, des individus, parce qu'ils ont été formés de la même manière, tendent, par exemple, à exclure certaines solutions. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez une crise financière, vous avez des banques qui sont dans une situation quasi-faillite. Sans doute que des gens qui ont été formés dans une école de commerce ont plus de mal à envisager qu'on puisse, par exemple, nationaliser ces organisations pour faire face à un risque considérable. Mais si, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, par ailleurs, parfois, effectivement, des ententes explicites, qui parfois même sont sanctionnées par la justice, mais c'est que très souvent, l'ordre des choses se reproduit aussi parce que ce qu'on partage, c'est des manières de percevoir le monde, de se comporter, qui facilitent l'entente sans qu'elle soit même explicite.
Je reviens sur le titre de votre ouvrage « Vers le haut » et le sous-titre « Enquêter sur l'élite au pouvoir ». Cette élite au pouvoir, elle est strictement, elle est d'abord économique. Est-ce que, je mets de côté l'élite politique, mais est-ce que l'élite culturelle appartient encore véritablement aujourd'hui à l'élite, notamment lorsque l'on sait grâce à vous que le diplôme est maintenant communément partagé par l'élite économique et cette économie culturelle?
Bon, dans une société qui est capitaliste, l'idée que les principaux domaines d'activité qui importent, c'est l'économie, la politique et l'administration, et que les autres ont un moindre poids, en tout cas en temps de paix, c'est pas une remarque incroyable. En revanche, ce qui vaut la peine d'être étudié, c'est de constater que selon les pays, selon les formes que peut prendre le capitalisme dans tel ou tel pays, la manière dont s'organisent les relations entre le pouvoir politique, l'administration et les milieux d'affaires varie considérablement.
Merci beaucoup de ces explications, de cette lumière portée justement sur les élites. Paul Lagnaud-Imonet, je redonne le titre de cet ouvrage que vous avez coécrit avec François Denor et Sylvain Laurent, « Vers le haut, enquêter sur l'élite au pouvoir », c'est aux éditions de La Découverte. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Merci à vous.